accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Toute l'Allemagne a-t-elle bénéficié équitablement de la réunification? Alors qu'approche le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, la question se pose avec toujours autant d'acuité et la réponse est bien évidemment non. Si des villes comme Dresde ou Leipzig ont bien géré la transition, d'autres paient encore lourdement les restructurations des années 90. C'est le cas d'Eurswerda, près de la frontière avec la République tchèque. L'ancien grand centre d'exploitation du charbon a perdu la moitié de sa population depuis 1989. Une hémorragie qu'il est bien difficile de contenir. C'est le reportage sur place de Julien Méchaussier.
Un jour de semaine, sur la place du marché de Eurswerda, des retraités sur un banc profitent du soleil d'automne. Un couple à l'âge avancé s'engouffre dans une Trabant, la voiture emblématique de l'ex-RDA. Le temps semble s'être figé. Pourtant, depuis 1989, Eurswerda s'est radicalement transformé. La page glorieuse de l'exploitation du lignite tournée, la ville lutte contre sa propre disparition. 40 000 emplois ont été supprimés dans la région avec la restructuration de l'ancien géant du charbon, Schwarzpumpe. Et les anciennes mines à ciel ouvert laissent la place à de grands lacs artificiels dans l'espoir de créer une nouvelle industrie, celle du tourisme. Un long processus qu'accompagne Catherine Winkler, responsable de l'association touristique d'Eurswerda.
Ce processus a pour moi une signification particulière parce que je suis née ici et que j'ai également travaillé dans l'industrie du charbon. Comme beaucoup, j'ai connu une période de chômage avant de trouver un emploi dans le tourisme. Et lorsque je fais découvrir aux visiteurs les mines à ciel ouvert, en leur disant que ces trous gigantesques seront un jour des lacs qu'ils pourront traverser en bateau, je leur prouve que la région a de l'avenir.
Une vingtaine de ces lacs entourent aujourd'hui Eurswerda. La ville mise également sur son passé industriel avec de nombreux musées. Si le tourisme commence à créer des emplois, l'ancienne cité modèle de la RDA continue de perdre des habitants. À peine 35 000 désormais, avec une moyenne d'âge qui dépasse de loin les 50 ans. Et des jeunes qui voient leur avenir à Dresde ou Leipzig, des villes de l'Est qui ont mieux digéré la réunification, comme Patrick, 22 ans.
Je pense que les jeunes vont continuer à partir vers des villes plus grandes, pour les études notamment, et ils ne reviendront pas. Ici, il n'y a rien à faire le soir, pas d'endroit où sortir. À partir de 18h, il n'y a plus de bus, il y a juste une discothèque dans le coin. Les jeunes d'ici n'ont pas d'autre choix que de s'exiler.
C'est en 1955 que le régime communiste décide d'ériger une immense ville nouvelle pour accueillir les travailleurs du charbon. La ville passe alors de 7000 à 70 000 habitants en une vingtaine d'années. Mais avec la restructuration du combinat Schwarzpumpe dans les années 90, cette cité dortoir a perdu sa fonction et donc ses habitants. Les barres d'immeubles de la ville nouvelle ont été rasées les unes après les autres, remplacées par des parcs. Ils étaient alors peu nombreux au début des années 2000 à croire à un avenir pour Eurswerda, une ville gagnée par la honte et le sentiment d'être la perdante de la réunification.
Trois cafés ?
Mais face à cette léthargie, des citoyens décident de se battre et lancent toute une série de projets culturels appelés Super Umbau, Super Reconstruction. Des pionniers dont fait partie Uwe Pruksch, le directeur du centre culturel Kulturfabrik.
La ville était comme en dépression et nous voulions briser cette léthargie. En 2003, nous avons alors mis sur pied plusieurs projets pour se réapproprier la ville. Nous avons, par exemple, organisé des fêtes de quartier à l'endroit même où des immeubles d'habitation ont été rasés. Nous avons aussi présenté des pièces de théâtre dans les bâtiments laissés vides, organisé des pique-niques citoyens dans les parcs qui ont remplacé des quartiers détruits. Tout ça pour redonner une image positive à la ville et contribuer à la qualité de la vie ici.
Aujourd'hui, Eurswerda est connue pour ses nombreux festivals de théâtre et de danse, sa vie associative très dynamique. Tout y est fait pour retenir les jeunes. Marlène a 17 ans et vient régulièrement à la Kulturfabrik participer à des ateliers de théâtre. Elle aimerait devenir réalisatrice de films et bien qu'elle aime sa ville, elle est bien consciente que son avenir est ailleurs.
Je trouve ça vraiment bien tout ce qui est entrepris, toutes ces rénovations et aussi les différents festivals et l'offre culturelle. J'espère que ça va continuer, mais je ne crois pas que cela suffise pour faire revenir les jeunes. Je pense plutôt que Eurswerda va rester une ville de vieux.
25 ans après la chute du mur, Hoyerswerda n'en a cependant pas fini avec cette saignée démographique. D'ici 2030, la ville comptera à peine 20 000 habitants, avant peut-être de réussir sa transformation en cité touristique.
Parler de l'indemnisation chômage sans tabou ni posture. Les mots sont ceux du nouveau ministre de l'économie français, Emmanuel Macron. Et ils font suite à une autre petite phrase du Premier ministre Manuel Valls qui déclarait que la France a fait le choix, je cite, d'un chômage très important et très bien indemnisé. Bref, autant dire que le débat fait à nouveau la une de l'actualité. Les chômeurs français sont-ils mieux traités que les autres chômeurs européens ? Daniel Vigneron, directeur de MyEurope.info, fait le point avec nous sur cette question qui concerne directement les 3,4 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité dans l'Hexagone. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Les chômeurs français sont-ils vraiment les mieux indemnisés d'Europe, comme le laisse entendre le Premier ministre Manuel Valls ?
On ne peut pas répondre à cette question par oui ou non. Les systèmes d'indemnisation dépendent de plusieurs critères. Les conditions d'octroi des indemnités, le montant de ces indemnités, leur durée de versement ou encore les obligations faites aux chômeurs en matière de recherche d'emploi. Seuls quelques rares pays, la Grande-Bretagne notamment, appliquent un système d'indemnisation des chômeurs, on ne peut plus simple, avec un forfait dont le montant ne dépend que de l'âge. Quel que soit leur salaire précédent, les plus de 25 ans perçoivent outre-Manche 87 euros par semaine et les moins de 25 ans 69 euros. La durée d'indemnisation de seulement 6 mois est elle aussi la même pour tous. Alors c'est sans doute le système le moins généreux et si Manuel Valls a relancé l'indémodable polémique sur l'indemnisation des chômeurs français lors de sa récente visite officielle à Londres, c'est pas un hasard. Comparé aux chômeurs britanniques, les Français sont effectivement beaucoup mieux indemnisés.
C'est-à-dire plus précisément ?
Si le calcul de l'allocation en Grande-Bretagne est le plus simple, en France, c'est l'un des plus complexes. Le taux d'indemnisation pratiqué en France varie entre 75% pour les très bas salaires et 57,4%. Prenons ainsi l'exemple d'un jeune en contrat de professionnalisation, payé en dessous du SMIC et gagnant 1000 euros bruts. Eh bien, il percevra 750 euros d'allocation, soit donc 75% de son ancien salaire. Mais au-dessus de 2054 euros bruts, l'indemnisation est de 57,4% du salaire brut, moins la CSG et la CRDS, soit 1401 euros net, 56% de son ancien salaire. Disons-le tout de suite, Frédéric, être indemnisé par Pôle emploi, pour un grand nombre de chômeurs, ce n'est pas Byzance. Hein. En 2013, selon une étude du ministère du Travail, les demandeurs d'emploi français percevaient en moyenne 980 euros bruts d'allocation mensuelle. En fait, le système français est surtout généreux pour les hauts salaires, car le plafond du salaire pris en compte pour l'indemnisation est de 12 124 euros, ce qui permet de percevoir jusqu'à 6161 euros d'allocation. Ce plafond est 3 à 4 fois plus important que dans le reste de l'Europe. Il est de 2450 euros seulement en Allemagne, de 2370 euros au Danemark, de 1600 en Belgique et même de 1170 en Italie.
Et alors quels sont les autres pays en Europe qui, avec la France, indemnisent plutôt bien les chômeurs ?
Les comparaisons de ce qu'on appelle à Pôle emploi, le taux effectif de remplacement sont assez délicates. Pour faire simple, la France compense plutôt bien l'ancien salaire, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays, comme le Danemark, qui indemnise à 90%, pareil au Luxembourg, 90%, la Suède de 50 à 80%, les Pays-Bas à 75% et la Belgique à 65%. Quant à l'Allemagne, elle compense à 60% et même à 67% à partir d'un enfant à charge, mais attention, c'est du salaire net. C'est donc un peu moins généreux qu'en France.
Mais dans certains pays, comme c'était le cas auparavant en France, les indemnisations sont dégressives. Comment dès lors comparer des pays avec une indemnisation fixe et ceux où elle varie ?
Effectivement, ce n'est pas simple. Ainsi, en Espagne, l'indemnité est de 70% du salaire, mais seulement pendant les 6 premiers mois. Puis elle tombe à 50%. Au Portugal, elle passe de 65 à 55%, également au 7e mois. Le système français est donc plus avantageux au-delà de 6 mois, mais pas au début. De plus, la durée d'indemnisation est longue en France, 24 mois dans le cas général, et 36 mois pour les plus de 50 ans.
Ce qui est beaucoup plus long qu'ailleurs.
En général, oui. si on laisse de côté la grande brièveté de l'indemnisation au Royaume-Uni, hein, 6 mois, on l'a dit, dans la plupart des pays du continent, les 24 mois d'indemnisation constituent une durée maximale. Il n'y a qu'en Belgique où l'indemnisation est en principe illimitée, mais elle est dégressive, puis se réduit à un forfait minimum, et en plus, elle peut être suspendue temporairement si le chômeur ne cherche pas activement un emploi.
Et qu'en est-il des conditions d'accès au chômage ?
Là encore, la France offre à ses salariés des conditions très favorables. Il suffit en effet de travailler et donc de cotiser 4 mois pour bénéficier d'une durée équivalente d'allocation chômage. Et cette durée de cotisation est strictement égale à celle de l'indemnisation chômage jusqu'à 24 mois. C'est beaucoup plus généreux qu'en Allemagne, où lorsque vous avez travaillé un an, vous ne percevez des allocations que pendant 6 mois, contre 12 en France. Et vous n'avez pas le droit au chômage si vous n'avez pas travaillé au moins un an au cours des 2 dernières années. En Espagne ou en Italie, c'est encore plus dur puisque la durée de cotisation ouvre droit à une durée d'indemnisation 3 fois plus courte. Cela dit, les Pays-Bas offrent des conditions à peu près équivalentes à celles de la France et au Danemark, c'est plus favorable puisqu'il suffit de travailler un an pour avoir droit à 2 ans d'indemnisation.
La France n'est donc pas le paradis pour les chômeurs, mais pas l'enfer non plus.
En fait, pour les salaires moyens, elle se situe dans la bonne moyenne européenne. En revanche, la France reste un paradis pour les chômeurs de longue durée à revenus élevés.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
La guerre résonne encore en Croatie. Près de 20 ans après la fin de la guerre des Balkans, le pays reste un terrain miné au sens premier du terme. 64 000 mines n'ont toujours pas été désamorcées et risquent encore de tuer ou de blesser. À Sisak, une localité au sud de Zagreb, une agence gouvernementale nettoie les parcelles et c'est le reportage de Laurent Berthaud.
Il est 13h, les démineurs viennent de quitter la zone dangereuse. La tension se relâche. La fin d'une journée de 5 heures seulement, règle imposée par les conventions internationales. En contrebas, une ancienne pâture, abandonnée de force depuis 20 ans, où poussent désormais de jeunes arbres. Un paysage bucolique trompeur, car si la guerre est terminée depuis longtemps, le risque demeure. Miljenko Vartaric, directeur adjoint du centre croate de déminage.
En général, les mines se trouvent à 5 ou 10 cm de profondeur, parfois plus. Ça dépend s'il y a des arbres autour. Si le sol est meuble ou pas, elles s'enfoncent plus ou moins. Et je peux vous dire que certaines de ces mines semblent avoir été posées hier tellement elles sont en bon état. Certaines, surtout en métal, sont rouillées pour la plupart et en mauvais état, mais toujours fonctionnelles. D'autres, comme les mines en plastique, sont dans le même état que lorsqu'on les a posées il y a 20 ans. Il y en a très peu et elles sont très difficiles à détecter. Il y a très peu de métal à l'intérieur et les détecteurs ne les repèrent pas facilement.
Pour éviter au maximum le risque d'accident, c'est une machine qui, la première, entre sur le terrain miné lorsqu'il n'est pas trop escarpé ou qu'il n'y a pas trop d'arbres. Une sorte de bulldozer télécommandé.
C'est une machine construite en Croatie. Elle est télécommandée à distance par un conducteur qui se trouve suffisamment loin derrière. Cette machine utilise différents outils. Ici, par exemple, on a des couteaux qui labourent la terre et qui tournent très vite. Donc les mines sont déchiquetées avant de pouvoir exploser. On l'utilise dans la terre meuble. L'autre outil qu'on peut utiliser, c'est une sorte de marteau qui frappe les mines pour les faire exploser.
Alors que 3 techniciens démontent, inspectent et remontent avec soin les couteaux de la machine à déminer, dans la vallée en contrebas, une autre équipe a pris le relais des démineurs.
La procédure, c'est que les mines qu'on trouve sont toutes rassemblées au même endroit. On creuse un trou dans la terre, on y met les explosifs.
Deux mines ?
Non, 2 groupes de mines. On en a déjà trouvé 200. Et donc après, on installe une longue mèche lente, ce qui permet au personnel de quitter la zone d'explosion. Et cette destruction de mines que vous venez d'entendre a lieu tous les 10 ou 15 jours.
Pour identifier les zones à risque, le centre croate de déminage se fie aux données fournies par les cartes militaires vieilles de 20 ans, Miljenko Vartaric.
This was a very heavily guarded confrontation line on both sides.
C'était une ligne de front extrêmement bien gardée par les deux camps. À Komanevo, le village au nord d'ici, il y avait des forces croates et la partie au sud d'ici était tenue par les forces serbes. Entre les deux, il y avait ce no man's land truffé de mines. Ici, nous avons 42 champs de mines déclarés et on s'attend à retrouver 800 mines antipersonnelles et antichars. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de mines non déclarées. Cela fait 11 jours que les démineurs sont là et ils en ont déjà trouvé plus de 200, rien qu'en 11 jours. Et ils ont prévu de travailler ici 2 mois.
They're planning to work here for 2 months.
En 1996, 13 000 km² du territoire étaient infestés de mines. Il en reste aujourd'hui 565 km² et les mines, elles, continuent à faire des victimes. Depuis la fin de la guerre, elles ont tué 198 personnes et blessé 383 autres, malgré les innombrables panneaux d'avertissement.
Aux alentours de Sisak, on a eu beaucoup de morts et de blessés à cause des mines, parce que les gens sont entrés dans les zones interdites. Souvent des personnes pauvres qui, dans la forêt, pouvaient trouver du bois de chauffage, des champignons. Et cela, malgré les panneaux de mise en garde et d'interdiction d'entrée. Notre travail principal, c'est vraiment de la sensibilisation. On n'arrête pas de répéter, si vous voyez les panneaux d'alerte, surtout n'entrez pas dans une zone qui est signalée comme dangereuse sur les cartes d'état-major.
Il faudra encore 5 ans pour déminer l'ensemble du territoire, à condition que le budget suive. La Croatie y a déjà consacré 570 millions d'euros en 16 ans, dont 31 millions financés par l'Union européenne.
Voilà un documentaire qui donne autant de frissons que de fou rire. En tout cas, c'est un film dérangeant. Dans Imkeller, littéralement dans la cave, le cinéaste autrichien Ulrich Seidel est allé scruter les profondeurs de ses compatriotes, au propre comme au figuré. Le résultat est décapant, comme nous le raconte depuis Vienne Nathanaël Vitran.
Le film s'appelle Imkeller, littéralement dans la cave, et il porte bien son nom. Pendant 1h30 environ, le réalisateur explore le sous-sol d'individus plus ou moins ordinaires, aux loisirs plus ou moins saugrenus. Filmé dans un cadre à la géométrie presque obsessionnelle, les caves se suivent et ne se ressemblent pas. Celle-ci sert de dortoir à des poupées en plastique d'un réalisme dérangeant qu'une femme entre deux âges vient parfois bercer comme de vrais bébés. Celle-là a été transformée en salle de tir par un passionné d'armes à feu. Plusieurs font office de donjons sexuels pour les différents couples sadomasochistes que l'on suit. Bref, Ulrich Seidel ne se contente pas d'explorer les sous-sols, c'est au ça freudien autrichien qu'il s'intéresse. Preuve qu'il a passé beaucoup de temps avec ses protagonistes, ceux-ci s'adressent toujours à la caméra avec la plus grande candeur, même filmés dans les positions les plus humiliantes. Dans les cinémas, on rit beaucoup devant ce portrait cruel de l'Autriche profonde, parfois jaune quand ressurgit le passé nazi mal enfoui. C'est le cas quand arrive à l'écran ce moustachu fanfaron dont toute la maison du garage au grenier est décorée de tableaux à la gloire de l'Autriche éternelle. Une salle dans la cave est-elle consacrée au Troisième Reich ? C'est là qu'après avoir répété avec ses collègues de la fanfare locale, ils viennent boire un coup sous le regard d'Adolf Hitler d'un côté et de la caméra de l'autre. La scène a fait beaucoup parler. Dans ce décor nazi, on trouve en effet deux conseillers municipaux appartenant au parti conservateur. Reconnus au moment de la sortie du film, ils ont été contraints à la démission. Une enquête est par ailleurs en cours tant il semble évident que cette cave viole la loi interdisant la propagande nationale-socialiste en Autriche.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot avec le soutien de l'Union européenne. Retrouvez-nous sur notre site et sur Facebook. À demain.